Aristote, Politique, livre 4, chapitre 8. Sommaire. Réduction des éléments politiques de la cité à deux seulement dans le gouvernement parfait. Les citoyens sont uniquement ceux qui portent les armes et qui ont droit de voter à l'assemblée publique. Exclusion de tous les artisans. Les bienfonds ne doivent appartenir qu'aux citoyens. Parmi les citoyens, les armes doivent être remises à la jeunesse, les fonctions politiques à l'âge mûr et le sacerdoce aux vieillards. Paragraphe 1. Après avoir ainsi posé les principes, nous avons encore à examiner si toutes ces fonctions doivent appartenir sans distinction à tous les citoyens. Trois choses sont ici possibles. Ou tous les citoyens seront à la fois et indistinctement laboureurs, artisans, juges et membres de l'Assemblée délibérante. Ou bien chaque fonction aura ses hommes spéciaux. Ou enfin, les unes appartiendront nécessairement à quelques citoyens en particulier, les autres appartiendront à la masse. La promiscuité des fonctions ne peut convenir à tout État indistinctement. Nous avons déjà dit qu'on pouvait supposer diverses combinaisons, admettre et ne pas admettre tous les citoyens à tous les emplois, et qu'on pouvait conférer certaines fonctions par privilège. C'est même là ce qui constitue la dissemblance des gouvernements. Dans les démocraties, tous les droits sont communs. C'est le contraire dans les oligarchies. Paragraphe 2. Le gouvernement parfait que nous cherchons est précisément celui qui assure au corps social la plus large part de bonheur. Or, le bonheur, avons-nous dit, est inséparable de la vertu. Ainsi, dans cette république parfaite où la vertu des citoyens sera réelle, dans toute l'étendue du mot et non point relativement à un système donné, ils s'abstiendront soigneusement de toute profession mécanique, de toute spéculation mercantile, travaux dégradés et contraires à la vertu. Ils ne se livreront pas davantage à l'agriculture. Il faut du loisir pour acquérir la vertu et pour s'occuper de la chose publique. Paragraphe 3. Reste encore la classe des guerriers et la classe qui délibère sur les affaires de l'État et juge les procès. Ces deux éléments-là surtout semblent devoir constituer essentiellement la cité. Les deux ordres de fonctions qui les concernent seront-ils remis à des mains séparées ou réunis dans les mêmes mains? À cette question aussi, la réponse est évidente. Ils doivent être séparés jusqu'à certains points et jusqu'à certains points réunis. Séparés parce qu'ils se rapportent à des âges différents et qu'il faut ici de la prudence, là de la vigueur. Réunis parce qu'il est impossible que des gens qui ont la force en main et qui peuvent en user se résignent à une soumission éternelle. Les citoyens armés sont toujours les maîtres de maintenir ou de renverser le gouvernement. Paragraphe 4. Il n'y a donc qu'à confier toutes ces fonctions aux mêmes mains, mais seulement à des époques différentes de la vie, et comme l'indique la nature elle-même. Puisque la vigueur appartient à la jeunesse et la prudence à l'âge mûr, qu'on partage les attributions d'après ce principe aussi utile qu'équitable et qui repose sur la diversité même des mérites. Paragraphe 5. C'est aussi à ces deux classes que les bienfonds doivent appartenir, car nécessairement, L'aisance doit être acquise aux citoyens, et ceux-là le sont essentiellement. Quant à l'artisan, il n'a pas de droit politique, non plus que toute autre classe étrangère aux nobles occupations de la vertu. C'est une conséquence évidente de nos principes. Le bonheur réside exclusivement dans la vertu. Et pour dire d'une cité qu'elle est heureuse, il faut tenir compte non pas de quelques-uns de ses membres, mais de tous les citoyens, sans exception. Ainsi, les propriétés appartiendront en propre aux citoyens, et les laboureurs seront nécessairement ou des esclaves, ou des barbares, ou des serfs. Paragraphe 6. Enfin, parmi les éléments de la cité, reste l'ordre des pontifes, dont la position est bien marquée dans l'État. Un laboureur, un ouvrier, ne peut jamais arriver aux fonctions de pontificat. C'est au citoyen seul qu'appartient le service des dieux. Or, le corps politique est divisé en deux parties, l'une guerrière, l'autre délibérante. Mais comme il est à la fois convenable et qu'on rende un culte à la divinité, et qu'on assure le repos aux citoyens épuisés par l'âge, c'est à cela qu'il faut remettre le soin du sacerdoce. Paragraphe 7. Tels sont donc les éléments indispensables à l'existence de l'État, les parties réelles de la cité. Elle ne peut d'une part se passer de laboureurs, d'artisans et de mercenaires de tout genre. Mais d'autre part, la classe guerrière et la classe délibérante sont les seules qui la composent politiquement. Ces deux grandes divisions de l'État se distinguent encore entre elles, l'une par la perpétuité, l'autre par l'alternative des fonctions.